Je vous souhaite une très belle après-midi et à 14h, vous avez rendez-vous avec Philippe Venturini.
Merci Hippolyte Pérès, on vous retrouve vendredi prochain.
France Musique, sous la couverture, Philippe Venturini.
Bonjour. S'il passe toujours pour un des géants de la musique du XXe siècle, Arnold Schoenberg aura été timidement fêté en France en cette année pourtant d'anniversaire. Peu de concerts, peu de disques à se demander s'il ne ferait pas toujours peur. C'est d'ailleurs la question que pose Jérémy Bigori, mon invité, sur la couverture de son livre « Qui a peur ?» d'Arnold Schoenberg, qui vient de paraître aux éditions des Lumières. L'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Ricardo Chailly. C'était la première des 5 pièces pour orchestre opus 16 d'Arnold Schoenberg. Bonjour Jérémy Bigori.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste musical pour Concertonet et Classica notamment. Et donc l'auteur de ce livre, en fait un abécédaire en quelques 70 entrées, d'adjuvant à voluptueux, consacré à Arnold Schoenberg. Je ne sais pas si d'ailleurs la version qu'on vient d'entendre de ces pièces opus 16 était voluptueuse à votre sens. Oui.
Oui, à mon gré elle l'était, et c'est l'orchestre du Concertgebouw, donc ça n'est pas surprenant. Mais ça fait partie des œuvres dont on découvre toujours, compte tenu de leur complexité et de l'effectif gigantesque qui est requis, on entend toujours de nouvelles choses selon les interprétations. Donc là encore, j'ai pu percevoir des petites saillies au vent et aux percussions qui m'avaient échappé jusque-là. Donc c'est toujours enrichissant d'écouter d'autres versions, effectivement.
Alors, qui a peur d'Arnold Schoenberg? Pourquoi ce titre? Parce que vous avez l'impression, comme je l'ai dit en préambule, que c'est un compositeur qui faisait encore peur, plus que Berg, que l'on jouait peut-être davantage, qui passe peut-être pour un peu pour le romantique du trio de cette seconde école de Vienne.
Oui, en effet, il y a aussi une entrée mal aimée, qui était une question que Boulez, qui savait de quoi il parlait, posait. Schoenberg, le mal aimé, effectivement, c'est un trait non négligeable de sa personnalité, de sa trajectoire, de sa musique, qui fait que peu de temps, finalement, après qu'il a passé le cap du post-romantisme, il va s'engager dans un chemin la tonalise dans un premier temps, puis le sérialisme, qui va lui attirer un certain nombre de déboires dont seront épargnés ses élèves. Et il conservera un côté anguleux jusqu'à la fin dans sa musique, là où le post-romantisme de Berg est beaucoup plus enveloppant, et là où la concision vraiment de Webern et la densité de sa pensée, le côté très déductif des motifs, va aussi lui donner l'assentiment des post-weberniens. Schoenberg, il y aura une sorte de malentendu sur la fin, puisqu'il va réintégrer de la tonalité, ce qui fait que finalement, de cette école de Vienne, il semble bien que ce soit lui le maître à qui on doit tout, quelque part, qui a la postérité la plus contestée.
Alors j'ai dit année anniversaire, puisque donc Schoenberg est né à Vienne le 13 septembre 1874, mort à Los Angeles en juillet 1951. Et là, cette pièce qu'on a entendue, opus 16, date de 1909, donc que Mahler était encore en vie. Donc on voit déjà quand même l'écart esthétique, même si on peut entendre quand même quelques parallèles entre les deux univers.
Oui, alors évidemment, la descendance mahlérienne est encore plus flagrante dans des œuvres comme Péléas et Mélisande.
Bien sûr.
Et effectivement, les Gurlider. D'ailleurs, il y a une entrée voluptueuse que je fais où je parle effectivement cette phrase de Baudelaire sur la révolution qui a été faite par des voluptueux, c'est-à-dire qu'il achève la tonalité dans les deux sens du mot, c'est-à-dire à la fois il accompagne le moribond, comme le ferait le prêtre, avec des œuvres effectivement comme Pélas et Mélisande et les Gurlider, et il en acte le décès, comme l'établit un médecin légiste, avec des œuvres comme les cinq pièces pour orchestre que nous venons d'entendre de 1909. Donc effectivement un an après 1908, et qui, là, effectivement, abolissent la tonalité, il n'y a plus rien à l'armure.
La soprano Christine Schaeffer, l'ensemble intercontemporain, placé sous la direction de Pierre Boulez, c'était Der Kranke Mond, la lune malade, extrait du Pierrot lunaire d'Arnold de Schoenberg. Jérémy Bigori, après l'opus 16, là c'est l'opus 21, 1912, le Pierrot lunaire et ce fameux Sprechgesang, donc parler, chanter. Est-ce que il y a d'ailleurs une entrée consacrée à cette œuvre dans votre abécédaire, Arnold Schoenberg. Est-ce que c'est une œuvre clé dans le parcours d'Arnold Schoenberg, Jérémy Bigori?
En tout cas, c'est une de celles qui lui a valu une fortune bien méritée et on ne peut que s'en féliciter. C'est effectivement un chef-d'œuvre. Et comparé, disons, aux pièces pour orchestre, on a là le bénéfice de la double armature du texte de Giraud qui donne beaucoup de cohésion aux pièces.
Poète belge, donc, dont les poèmes ont été traduits en allemand.
Ont été traduits en allemand, exactement. Et des formes anciennes dans lesquelles Schoenberg va couler sa musique, ça va être d'ailleurs une constante de son style, même dans la période sérielle, on va constater cela. Et là où Erwartung est vraiment une œuvre limite, c'est-à-dire qu'on atteint les 30 minutes avec un texte plus long qui permet de garder la distance, de la tenir, les œuvres, disons, atonales vont avoir pour caractéristique d'être assez courtes, avoir pour corréla l'aphorisme à quoi je consacre une entrée également. Et le Pierrot Lunaire, là, aura aussi une descendance assez considérable. Et Pierre Boulez se souviendra de cette pièce, puisque dans le Marteau 100 mètres, il y a une pièce pour flûte et voix. Quant au fameux Sprechgesang, alors là, ce n'est pas moi qui va solder les débats ce soir. Peut-être Christine Schaeffer l'a fait à sa manière, dans la mesure où elle semble avoir le juste milieu entre le parler et le chanter. Vous avez certaines interprètes, c'est le cas d'Yvonne Minton, par exemple, dans la première des version précédente de Boulez, était vraiment dans un cantabilé très enveloppant. Et voilà, ça fait une partie des originalités de Schoenberg, mais effectivement, Schoenberg n'est pas le premier, si on veut s'amuser à trouver une généalogie. On a chez le compositeur Humperdinck, même si c'est chez lui plus anecdotique, l'usage de ce procédé, qui consiste effectivement à être à mi-chemin entre le parler et le chanter.
Jérémy Bugré, vous avez évoqué l'histoire et la place que peut occuper, à laquelle peut prétendre Arnold Schoenberg. Est-ce qu'il avait, on sait qu'il était très conscient de l'histoire de la musique, que c'était pas du tout un compositeur de la table rase. Comment est-ce qu'il se voyait intégrer cette histoire de la musique comme quelqu'un de la continuité, comme quelqu'un du basculement, de la révolution? Comment est-ce que vous le ressentez?
C'était un homme pétri de contradictions et il avait parfaitement conscience qu'il faisait qu'il franchissait un pas considérable. Il n'aura de cesse après coup que de quelque part de devenir à récipissance, et on le sent, cette volonté, et c'est ce qui va donner parfois à cette musique ce côté parfois volontariste de démontrer qu'il est encore dans la tradition, finalement, qu'il s'y inscrit. D'abord, il n'aimait pas le terme atonalité privatif, il parlait d'émancipation de la dissonance, qui est une volonté
de libérer, justement, voilà, mais non pas de priver.
Exactement, ouais. Et de poursuivre l'idée d'un cheminement, d'une continuité sans rupture. Et en même temps, c'est quelqu'un qui avait parfaitement conscience qu'il franchissait quelque chose. Il le dit à un moment dans une lettre, qu'il est révolutionnaire, qu'il veut renverser la table. Et en vieillissant, effectivement, il aurait à cœur, j'allais dire presque, de s'amender. On aura des œuvres tonales à la fin de sa vie.
Thank you.
Maurizio Pollini dans la cinquième et dernière des pièces pour piano opus 23 d'Arnold Schoenberg. Jérémy Bigori, cette cinquième et dernière pièce s'intitule Valse. Donc là, on retrouve à nouveau la référence au passé, même si le rythme de la valse n'est peut-être pas évident spontanément. Alors, est-ce que là, à nouveau, on se trouve dans une sorte de position ambiguë entre la tradition et la modernité, pour schématiser évidemment?
Oui, c'est assez typique de Schoenberg. On a là sa méthode qui en est à ses balbutiements. Il choisit de la couler dans une valse. Et c'est assez symptomatique de sa manière de faire et de ce qu'il fera par la suite. C'est-à-dire qu'il reste foncièrement tributaire de la syntaxe tonale. Là où quelqu'un comme Webern s'en affranchira, il est fascinant de voir que Webern s'approprie à la Syrie d'une manière sans doute plus conséquente, avec, il me rappelle un peu ces enfants prodiges à qui vous donnez un cube et qui en un tournement vous trouve la combinaison. Et là, on a, chez Schoenberg, vraiment, dans une pièce comme celle-là, et déjà dans 1908, rappelez-vous la phrase de Victor Hugo, j'ai mis un bonnet rouge au dictionnaire.
Ouais.
Il entendait par là le dramaturge qui avait donné place aux mots qui étaient d'ordinaire considérés comme étrangers à la tragédie. Et Schoenberg, ici, il abolit les privilèges, c'est-à-dire c'en est fini des degrés forts, les degrés de tonique, de dominante, de sous-dominante autour desquels s'articulait le discours sont désormais abolis, de même que le favoritisme accordé aux cinq tons voisins vers lesquels on se tourne au moment du développement. Et ici, vous avez les 12 degrés qui sont mis sur le même plan, mais en vertu de cette méthode qu'il a élaborée, il va pouvoir planifier sur le long terme. C'est pour ça que, d'une certaine manière, les œuvres sérielles seront plus longues que les œuvres atonales de la période précédente, qui en étaient réduites, faute d'un texte, pour leur donner une certaine armature, à des durées extrêmement réduites.
Est-ce que, si je vous pose une question vraiment naïve, est-ce que si je vous dis, Jérémy Bigori, que c'est à partir de cette évolution du langage dans les années 20 que Schoenberg est devenu peut-être plus difficile d'accès et qu'il a fini par faire peur à certains mélomanes? Qu'est-ce que vous répondez?
Ah bah écoutez, lui vous dirait que la malédiction a commandé dès la nuit transfigurée, ce qui nous ferait plutôt sourire, parce qu'il a eu droit à un accueil extrêmement véhément. Mais
alors que c'est la pièce de Schoenberg que
aujourd'hui,
le grand public aime et connaît.
Exactement, et de son vivant même, il entendait tout le temps à la radio, c'était pour lui difficile à vivre. Honnêtement, je crois que la rupture a eu lieu avant. Mm-hmm. Je pense que des œuvres comme le cycle des jardins suspendus, Erwartung, les cinq pièces pour orchestre que vous avez fait entendre et qui choquaient Richard Strauss, qui lui avait accordé son soutien, et jusqu'à Mahler, qui a senti que quelque chose lui échappait.
Lui échappait, oui, il disait
mais
ne pas
Mahler,
comprendre.
Voilà, ouais. Mahler était, cela dit, plus compréhensif vis-à-vis de Schoenberg, il l'épaulait davantage, tandis que Richard Strauss, on a bien compris que lui-même avait, après Elektra, fait un pas assez considérable en arrière. Et voilà, donc s'il fallait dater le divorce avec le public, je le ferai dater d'avant quand même.
L'ensemble intercontemporain sous la direction de Pierre Boulez. C'était le début de la première symphonie de chambre d'Arnold Schoenberg, une œuvre composée en 1906. Donc on a pris un peu la chronologie à rebours. Jérémy Bigori, vous me disiez à micro fermé que c'était une des œuvres, une de vos œuvres préférées de Schoenberg et même de tout le XXe siècle. Pourquoi ?
Oui, je me permets de faire cet aveu.
Ah alors,
là, Schoenberg n'a pas encore mis le bonnet rouge au traité d'harmonie. Il est encore conscient des priorités tonales
oui,
qui sont si évidentes,
selon lesquelles il faut diriger la musique. Ouais.
Exactement, l'eau commence à se troubler, c'est-à-dire que les quartes prennent l'ascendant sur les tierces, donc on a le système tonal qui commence à être un petit peu bancal. Et ce qui me plaît aussi dans cette œuvre, c'est la façon de mener le discours, la spiritualité des échanges, le côté roboratif, la virtuosité étincelante de l'orchestration, et quand c'est joué par les musiciens de l'ensemble intercontemporain, c'est... Et puis ce goût de la polyphonie qui revient comme ça, aussi dense que celle de Bach, que des gens comme Hindemith auront aussi à cœur de travailler dans ce sens-là, dans des œuvres chambristes.
Vous avez évoqué Hindemith, le retour à Bach. Est-ce que là, à nouveau, Schoenberg fait montre du tribut qu'il paye à la tradition, à la grande école contrapuntique allemande ?
Oui, c'était aussi déjà saillant dans le premier quatuor ou ces œuvres-là. Je ne pense pas qu'il y aura un trait néoclassique de sa période sérielle qui lui sera reprochée. Là, je dirais que ça n'est pas du tout dans cet esprit-là néoclassique qu'il faut entendre cette musique. C'est juste qu'il a été élevé dans cette école du contrepoint, Schoenberg. C'est quelque chose de très prégnant chez lui. Et en autodidacte, hein, je précise, il a suivi les cours de Zemlinsky. Mais à part cela, c'est quelqu'un qui s'est vraiment façonné lui-même, ce qui est assez confondant, la maîtrise qu'il fait preuve dans ce domaine. Et je voudrais pas qu'on pense qu'il y a un retour à Bach ici, comme il y a dans les œuvres de Stravinsky des années 20, avec côté nez rouge.
Certaines pages d'Hindemith aussi.
Et certaines pages d'Hindemith aussi, après, oui. Effectivement, ce sera plus tardif.
Oui. Jérémy Bigori, on parle beaucoup depuis le début de cette émission de la musique d'Arnold Schoenberg, ce qui est normal, mais dans les quelques 70 entrées que vous consacrez au compositeur, dans votre ABCDA, il n'y a pas que des entrées purement théoriques, musicales. Je tiens à rassurer, si tant est qu'il fallait rassurer certains de nos auditeurs, vous penchez aussi sur l'homme, sur son profil, sur son parcours, sur sa philosophie, son rapport à la religion, on y viendra en fin d'émission. Vous nous menez même chez lui, dans ses appartements. Comment est-ce que c'était chez Schoenberg ? Tout était rangé au millimètre près, comme on peut l'imaginer, ou au contraire, c'était une sorte de désordre du créateur ?
Bon, écoutez, on a quelques témoignages.
Oui, c'est pour ça, oui.
Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. D'ailleurs, je n'ai pas résisté à la tentation d'Averus, le juif errant. Il y a un peu de ça chez Schoenberg, qui a été entre Vienne, Berlin, et puis à son corps défendant aux États-Unis, où il était un peu dans une patrie, mais c'est le cas après tout de Rachmaninov ou de Bartok, finalement.
Les États-Unis, parce qu'il a dû fuir
exactement,
l'Autriche,
là, il a, effectivement. Dès 1933, d'ailleurs, il ne perd pas de temps, il fuit Berlin. Et alors, les habitudes, il semblerait que c'était quelqu'un, alors il a eu des enfants de sa première épouse, puis de la seconde, qui aimait le jeu, et quitte à réécrire les règles lui-même, comme celle des jeux d'échecs. Et dans sa méthode de composition, on constate à partir de Moïse Araon, qui renonce aux instruments transpositeurs, par exemple. Donc c'est quelqu'un de pragmatique, et qui, pour l'élaboration aussi des différentes séries, a mis au point. Alors Stravinsky était célèbre pour sa machine à tracer des portées. Ouais. Schoenberg, lui, en bon talmudiste, avait des séries qu'il écrivait sur plusieurs bouts de papier avec différentes combinaisons, renversements, récurrences, récurrences, renversements, etc., à partir desquels il pouvait travailler. Donc je me suis autorisé, voilà, une petite série comme si on s'immisçait dans son laboratoire.
Ouais. Ouais.
Mais je n'en sais pas davantage. Son travail de fournaise créatrice reste mystérieux.
Bien sûr, ouais. Bon, c'est par ailleurs, enfin, notamment aux États-Unis, qu'il s'intéressait au cinéma. Il y a des photos, on le voit avec Charlie Chaplin, on le voit jouer au tennis. On connaît aussi l'homme qui n'était pas seulement qu'un théoricien sévère, austère. On sait même que comme professeur, il était très impliqué dans son métier d'enseignant, dans la transmission du savoir.
Oui, c'était très important chez lui. C'est quelqu'un, la musique comptait, vraiment, c'est ce qui comptait le plus pour lui. C'est quelqu'un, je crois, qui ne pensait que musique, ce qui ne l'a pas empêché de s'adonner à la peinture et d'être aussi un lecteur. Il aimait beaucoup Strindberg, un certain nombre d'écrivains. Mais tout tournait autour de la musique et la transmission lui a permis à lui-même d'affiner son propre parcours. Il a appris autant des élèves qu'eux-mêmes ont appris de lui.
don't remember everything. I must have been unconscious most of the time. I remember only the grandiose moment when they all started to sing as if prearranged. The old prayer they had neglected for so many years. The forgotten creed. But I have no recollection how I got underground to live in the sewers of Warsaw for so long a time. The day began as usual. Réveille! But it still was dark. Get out! Whether you slept or whether worries kept you awake the whole night, you had been separated from your children, from your wife, from your parents. You don't know what happened to them. How could you sleep?
Gottfried Hornig, le narrateur, l'orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Claudio Abbado. C'était le début de Un survivant de Varsovie. Opus 46 d'Arnold Schoenberg, 1947, Jérémy Bigori, donc après la Deuxième Guerre mondiale, et avec un titre pareil, on a un peu une idée de ce que peut raconter une telle œuvre. J'ai dit tout à l'heure, on va aborder la question de Schoenberg et de la religion, donc nous y voilà.
Oui, effectivement, on peut la cadencer en plusieurs étapes. Il était issu d'une famille juive, mais très attaché à l'assimilation. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit qu'il a embrassé la foi protestante sous la férule d'un camarade à 23 ans. Mais on ne peut pas dire qu'il était dans une famille très pratiquante. La religion s'imitait un certain nombre de gestes qu'il était convenable de faire ou de ne pas faire par égard pour sa grand-mère, un peu comme dans certaines familles de la bourgeoisie catholique. Puis, il y a une sorte de crise de foi qui s'empare de lui au moment de la période atonale. Il lit beaucoup de choses de manière un petit peu, pour nous, anarchique. Il lit aussi bien Strindberg, Swedenborg, que la Bible, et il écrit même une page qu'il va publier à part, et puis il y a la musique de l'échelle de Jacob. Tout ça, c'est une sorte d'ingrédient qu'il met dans sa fournaise créatrice et dont il a seul le secret, j'allais dire, et la clé. En tout cas, c'est indissociable de ce rôle de prophète dont il se sent investi à cette époque. Et la dernière étape, elle est beaucoup plus lisible, puisque c'est d'une certaine manière le contexte historique qui va lui dicter sa conduite. Il est en 33 à Berlin, et là, il prend conscience du danger qu'il encourt. Il va à Paris, dans un premier temps, avant de regagner les États-Unis. Là, il réembrasse la foi de ses ancêtres. Il se veut solidaire de ses frères juifs persécutés. Et il va prendre fait et cause pour l'État d'Israël, jusqu'à mettre entre parenthèses sa musique qui, jusque-là, comptait énormément. Il va s'impliquer au congrès sioniste de Prague. Il va écrire des tracts. Et heureusement pour nous, cela va aussi se traduire musicalement, puisqu'il va composer Moïse Aaron, qui n'aurait certainement pas complété avec autant d'aide derrière-pensée derrière, et au contact de la communauté juive des États-Unis, et on va lui commander des œuvres comme Kol Nidrai, ou ici en l'occurrence, le survivant de Varsovie, qui utilise trois langues, allemand, anglais et hébreu à la fin, pour le Shema Israël, qui est une prière.
Très bien, merci beaucoup Jérémy Bigori. Je pense que grâce à votre livre, on n'aura plus peur d'Arnold Schoenberg. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions des Lumières. Qui a peur d'Arnold Schoenberg? Il y avait aujourd'hui à la réalisation Doria Zénine, à la technique Eric Boisset, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Jorge Morales et je vous proposerai une promenade entre les 16e et 18e siècles pour découvrir les cardinaux et l'innovation musicale à l'époque moderne.
En piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulnier, à 9h sur France Musique.
France Musique, depuis quelque temps, fête un musicien de légende, c'est David Oistrakh.
Dès demain et toute la semaine, En piste partage ses coups de cœur dans les grands enregistrements du violoniste.
David Oistrakh, dès demain, 9h.
En piste, une émission France Musique à retrouver sur radiofrance.fr et l'appli Radio France.
France Musique, il est 14h30, excellente journée à l'écoute de nos programmes. Tout de suite, la saga consacrée à Maria Callas.
You have much more effect with a feeling in the voice than all that hullabaloo that goes on.
France Musique. Callas, Mille et une voix, une série racontée par Karine Dehé.
Moi, j'ai commencé une petite fille avec rien. En Amérique, je me suis trouvée en Grèce après, avec la guerre, je souffert. La faim, tout le monde l'a souffert, d'ailleurs, je n'étais pas une exception. Et avec rien, disons, que mon monde particulier, avec mon monde que le bon Dieu m'a donné la façon de m'expliquer avec... Parce que c'est ce monde que j'applique à travers le chant à donner au public, comme ça, ça m'a rendue fameuse. Avec rien que j'ai, je suis devenue ce que je suis devenue. Ce que vous dites que je suis devenue, évidemment, je me rends compte. Évidemment, ça effraie. Voilà pourquoi j'ai peur. Vous avez dit, maintenant j'ai peur. Parce que, sûrement, vous m'avez donné une situation qui est splendide, unique au monde. Mais que c'est très, très haut, on est très, très seul, parce que quand, à un moment, on tombe... Vous savez, la chute est très, très, très grande.
La première fois que l'on a entendu Maria Callas dans une production d'opéra sur scène, c'était le 2 avril 1939. Nous sommes à Athènes, au Théâtre Olympia, rue de l'Académie. Les élèves du conservatoire chantent Cavalleria Rusticana, l'ouvrage de Mascagni. Maria a 15 ans et elle a ce jour-là, dit-on, une méchante rage de dents. Son état civil indique qu'elle est née à New York le 2 décembre 1923 sous le nom de Sofia Cecilia Anna Maria Kalogeropoulos. La jeune fille découvre sa voix. Elle apprend déjà avec une grande ferveur et beaucoup de détermination. Maria Trivella, qui dirige le conservatoire d'Athènes et qui lui donne ses premiers cours de chant, témoignera plus tard « Je la faisais travailler non seulement avec l'attention et l'expérience d'un professeur, mais avec l'amour et le dévouement d'une mère. » Ce fut, dira Maria Trivella, ma petite contribution à la réalisation d'un avenir glorieux et qui m'a paru certain dès les premiers jours. 1953, sous la direction de Tullio Serafin, Maria Callas et Giuseppe Di Stefano enregistraient à Milan une intégrale de Cavalleria Rusticana de Mascagni. On tient donc avec ce personnage de Santuzza le premier vrai rôle en entier de Callas lorsqu'elle était encore toute jeune, étudiant le chant à Athènes.
Pourquoi avez-vous chanté? Est-ce que vous avez une idée?
Pourquoi? Parce qu'on m'a fait chanter.
On vous a fait chanter? Oh, vous, oui. Petite fille, au fond, vous n'aviez pas spécialement envie.
Bien, évidemment, vous savez, à 13 ans, il y a la mère et le père qui décident, n'est-ce pas? Et alors, voilà, ils ont décidé ça.
Est-ce que vous avez eu l'impression que vous avez été en cela le jouet du destin, ou est-ce que vous croyez qu'on peut avoir une influence sur son destin?
Non, je crois sûrement sur mon compte. Disons, je trouve que je suis une créature de destin, sûrement.
Alors, vous n'avez pas choisi le destin de chanter, mais vous avez très vite eu le goût des planches.
Non, je n'ai pas choisi le destin du chant. Je n'ai jamais eu vraiment de confiance dans le chant parce que je ne croyais pas que j'avais de voix. Enfin, mais puisque ma mère insistait tellement, évidemment, je n'avais pas d'argent pendant la guerre donné à une professeure de chant au conservatoire. Alors, j'ai toujours gagné les bourses d'études et ça me donnait évidemment, la sûreté que j'avais de talent. Mais je n'ai jamais cru vraiment en moi-même. Mais je ne savais pas faire autre. Alors, j'ai aimé beaucoup la musique, l'art, et puisque j'étais là, dans ce métier-là, je devais pourtant me gagner la vie.
Maria Callas, au micro de Micheline Banzé en 1965. À propos de Cavalleria Rusticana, il est très émouvant de se souvenir qu'à la toute fin de cette histoire, dans les années 1970, lorsque Callas et Di Stefano feront une ultime tournée de concert ensemble, l'un et l'autre à bout de voix, eh bien, ces deux complices rechanteront le duo que l'on écoutait à l'instant entre Santuzza et Torrido. C'est à Sao Paulo, au Brésil, que Maria Callas et Giuseppe Di Stefano s'étaient rencontrés pendant une représentation de la Traviata. Callas chantait pour la première fois avec le ténor et un autre immense futur coéquipier, le baryton Tito Gobbi. Là aussi, début d'un long compagnonnage. Voici trois noms que l'on allait bientôt réunir pour l'un des plus grands enregistrements d'opéra de l'histoire du disque, Tosca de Puccini. Je vous propose d'écouter le duo du premier acte entre Mario Cavaradossi et Floria Tosca.
Ora stammi a sentir stasera canto, ma spettacolo breve. Tu m'aspetti sull'uscio della scena e alla tua villa andiam. Soli, soletti.
Stasera
in una piena in notturno e fluvio floreale in ebria non sei contento
tanto
torno lo di
tanto
tu dici muore. Non la sospiri la nostra casetta, che tutto scusa per venirne ci aspetta, né dono il sacro ignoto al mondo in te, pien d'amore di
Thank you.
verrà. Or lasciami al lavoro,
i dispacci,
urge l'opera, lo sai.
Vado, vado. Chi è quella donna bionda lassù?
La Maddalena, ti piace?
È troppo bella.
A prezioso elogio.
Ridi. Quegli occhi cilestrini gialli vidi.
O ce n'è tanti per il mondo.
Aspetta, aspetta. E la Tavoce.
Brava.
La vedi. Trovi.
Un caso.
E passi. E quel mi spegno.
La ritrassi.
Giuro.
Giuro.
Come mi guarda fiso.
Vien via.
Di me mi far da ridere.
Follia.
Negli occhi
curva, lasciami.
Tu fino a stasera stai ferma al lavoro e mi prometti sì a casa fortuna, se a treccia bionda bruna a pregar non verrà donna nessuna.
Lo giuro, amore, va.
Quanto m'apprendi?
Ancora. Davanti alla Madonna.
Cette Tosca légendaire, dirigée par Victor de Sabata et enregistrée au mois d'août 1953 à Milan, réunit Maria Callas et Giuseppe Di Stefano. C'était ici leur duo du premier acte. Et puis, bien sûr, il y a dans le rôle du baron Scarpia, le grand Tito Gobbi, lui aussi fidèle partenaire de la soprane. On retrouvera d'ailleurs Tito Gobbi dans le cours de cette série Callas sur France Musique. Tosca occupe une place à part dans la carrière de la chanteuse. Ce rôle était loin d'être son préféré. Mais l'image, et surtout les caméras, ont fixé très fortement cette incarnation de la diva dans l'imaginaire collectif. C'est avec Tosca que l'on a vu Maria Callas pour la dernière fois dans une production sur scène en juillet 1965 à Londres. Et c'est avec Tosca que la jeune Callas avait fait aussi ses grands débuts professionnels dans le répertoire italien. C'était au mois d'août 1942, dans une ville d'Athènes occupée alors par les Allemands et les Italiens. Un journaliste, présent pour l'occasion, avait écrit ceci. « Toutes les pauvretés de la mise en scène sont oubliées lorsque paraît Maria Kalogeropoulos, une jeune fille, presque une enfant, l'instinct musical au plus haut degré et le sens dramatique. Elle est née avec. »